Là, ça enregistre.
Là, ça enregistre, c'est sûr?
Oui, oui, là, c'est bon, il y a les numéros. Justement, je regardais le temps, c'est pour ça. Bon, bah, bon, on va reprendre. Ça, ça vous allait autrement, à peu près, la démarche?
Pas mal.
Bon, on va reprendre. Ah, c'est affreux, ça. Alors, j'étais parti comment, moi?
Bonsoir.
Bonsoir, Françoise.
Bonsoir.
Donc, vous venez dans le cadre des semaines de l'astronomie, dans une salle que vous connaissez bien, je crois.
Oui, je suis déjà venue, effectivement, dans la salle de Bretagne à Nantes, pour vous parler des phénomènes lumineux du ciel.
Oui, dans les phénomènes lumineux, quand vous êtes venue il y a 2 ou 3 ans, je crois.
Oui.
C'était pour nous parler des phénomènes lumineux qui se passent en plein jour.
Oui.
On n'a malheureusement pas trop la chance de voir ces derniers jours, puisqu'il
non,
fait
c'est,
pas très beau.
Hein. Ces derniers, je dirais même sur les derniers 6 mois, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions favorables. Mais justement, ce que fait un astronome lorsque le ciel n'est pas dégagé, eh bien, il se plonge dans les écritures et il peut éventuellement s'intéresser au calendrier.
Le calendrier, qui est une transition parfaite, qui est le sujet de ce soir, pour une conférence qui est dans le cadre du cycle de conférences de la Société d'Astronomie de Nantes. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas beaucoup pourquoi, pourquoi on va inviter quelqu'un pour ne pas parler d'un calendrier dans les semaines de l'astronomie.
Oui, effectivement, parce que quand on parle calendrier, on pense à la vie de tous les jours. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'avec le calendrier, c'est faire de la prose sans le savoir, parce qu'en fait, on fait de l'astronomie dès qu'on parle calendrier. Il y a bien sûr un certain nombre de règles qui ont été fixées par les sociétés, mais les grandes unités de base et les grandes idées qui vont défendre les différents calendriers sont toutes astronomiques.
Alors, on imagine bien, bon, tout le monde sait à peu près, je pense que l'année, c'est la rotation, la révolution de la Terre autour du Soleil. Mais après, c'est vrai que bon, c'est découpé en mois, après c'est découpé en semaines, c'est découpé en jours. Donc tous ces découpages ont tous un lien avec l'astronomie.
Oui, le plus simple, c'est le jour, qui est bien entendu le temps que met la Terre pour faire une révolution autour d'elle-même. Donc c'est la rotation de la Terre sur elle-même qui nous donne la première unité, donc le jour. Et ensuite, quand on prend les 2 autres unités, donc que sont le mois et la semaine, eh bien le mois, c'est le temps qu'il faut à la Lune pour faire une révolution autour de la Terre et nous donner donc l'intervalle entre 2 pleines lunes, par exemple. Mm-hmm. Et puis la semaine, eh bien, ce sera une unité lunaire également, puisque c'est le temps qu'il faut à la Lune pour changer de phase. Par exemple, passer de la pleine Lune au dernier quartier, nouvelle Lune, premier quartier, pleine Lune. Donc en fait, là encore, on retrouve l'astronomie. Donc vous avez 2 unités qui sont liées à la Terre et au Soleil, c'est le jour et l'année, et 2 unités qui sont plus liées à la Lune, qui sont le mois et la semaine.
C'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, je regardais les films de cow-boys et on entendait toujours les Indiens parler dans 3 lunes, on se reverra. Ils disaient, ils sont un peu ridicules à compter en lune. Et en fait, nous, on compte en lune inconsciemment, en fait, c'est ça?
On compte en lune inconsciemment. Alors, il y a un autre petit problème qui joue, c'est que si on cherche à connaître les valeurs de ces différentes périodes, la durée de la lunaison, c'est 29,53 jours. Mm-hmm. Et si on veut parler de la durée de l'année, c'est 365,24, pour ne pas donner plus de décimales. Et en fait, c'est un gros problème d'arithmétique, c'est-à-dire que l'année où la lunaison ne compte pas un nombre entier de jours. Alors ça, c'est le gros problème de l'astronomie et de l'arithmétique. Comment arriver à faire fonctionner un calendrier qui fasse s'accorder des nombres décimaux qui ne sont pas compatibles entre eux?
Oui, c'est-à-dire en fait qu'il n'y a pas autant de révolution de la Lune dans une année, ça tombe pas juste, c'est bien
rien
le problème. Rien
ne tombe juste. Alors justement, de ça on en déduira donc qu'il existe 4 grands types de calendriers. Alors, on va déjà les citer, puis après on dira un petit peu de quoi il s'agit. Alors, il y aura le calendrier qu'on appelle encore le calendrier chronologique ou le calendrier de Robinson Crusoe. Il y aura un calendrier qu'on appellera un calendrier solaire. Mm-hmm. Et puis vous aurez un calendrier lunaire et un calendrier lunisolaire qui sera le plus compliqué. Alors le plus simple, c'est le calendrier chronologique, c'est le calendrier de Robinson Crusoe. C'est-à-dire que tous les matins, quand on se réveille, quand le jour se lève, on fait une encoche un morceau de bois, puis on compte les jours comme ça. Bon, mais on se rend compte que dès qu'on arrive à un grand nombre de jours, même si on les regroupe par paquet de 10 ou par paquet de 30, ça devient vite compliqué à compter. Donc on va essayer de trouver une unité intermédiaire. Donc dans cette unité intermédiaire, on va prendre le temps qu'il faut à la Terre pour faire un tour autour du Soleil, c'est-à-dire une année, et essayer de s'approcher que l'année du calendrier qu'on va fabriquer s'approche le mieux possible de 365,24 et quelques.
Oui, ça nous permettra d'en mettre entre guillemets les compteurs à zéro, ou alors de garder les anciens bouts de bois et de refaire une deuxième marque à côté des premiers.
Voilà, de faire une autre marque à côté des premiers. Donc ça, c'est l'idée du calendrier solaire, qui est en fait le calendrier avec lequel on vit, nous, notre calendrier grégorien, qu'on utilise actuellement, est un calendrier solaire. Alors, il y a d'autres personnes qui n'utilisent pas le soleil comme référence, par exemple, dans le calendrier musulman, Le Soleil n'a aucune influence, c'est-à-dire on compte uniquement en lune, c'est-à-dire qu'on va avoir un mois à chaque nouvelle lune. D'accord. Et donc l'année sera plus courte que notre année à nous, puisqu'elle ne va durer que 354 jours. Donc une année musulmane, c'est 12 mois lunaires, donc ça fait 354 jours. Donc ça, et bien entendu, je dirais qu'un phénomène comme l'arrivée des fraises ou la cueillette du muguet n'aura pas lieu toujours à la même date dans un calendrier lunaire qui n'est pas calé par rapport aux saisons.
C'est vrai que le muguet, justement, on en parle, c'est le 1er mai, ça tombe à peu près à cette période-là.
Oui.
Et puis, c'est vrai que donc, dans un calendrier lunaire, ça peut tomber, par exemple, même s'ils ont...
Au 9e mois de l'année, ou au 10e, au 1er, ça va changer systématiquement, puisque d'ailleurs, le Nouvel An musulman décrit un tour complet de notre calendrier à nous en 33 ans.
D'accord, c'est-à-dire que tous les 33 ans, ils reviennent à la date qu'il y avait il y a 33 ans.
Tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est encore un calendrier simple, qui est donc le calendrier lunaire, dont l'exemple le plus connu est le calendrier musulman. Et puis alors, il va y avoir un dernier type de calendrier, qui est le calendrier juif, qui essaiera de faire plaisir en même temps au soleil et à la lune. Alors là, ça va être très très compliqué. Et c'est un calendrier qui va fonctionner sur un rythme donc de 19 ans, avec des années qui... Il va y avoir 6 types d'années. Il va y avoir des années de 12 mois et des années de 13 mois. Ne souriez pas avec les années de 13 mois, c'est vrai. Et dans ces années de 12 mois ou de 13 mois, elles peuvent être courtes ou elles peuvent être longues. Et leur règle d'alternance des différents types d'années est non pas un processus mathématique, mais c'est calculé, je dirais, au coup par coup. Mais ils ont fait ça sur plusieurs années, plusieurs dizaines, centaines d'années d'avance, pour que deux jours de jeûne ne se retrouvent pas de façon consécutive donc dans leur système de fêtes religieuses. Donc, mais c'est calculé empiriquement, il n'y a pas eu une formule mathématique là derrière. Donc c'est quand même un calendrier très très compliqué. Par rapport à ça, on a de la chance. Notre calendrier est relativement simple, même s'il a quand même des spécificités avec le nombre de jours dans les mois qui n'est jamais pareil.
Ben oui, c'est vrai qu'on peut un peu de cette complexité, mais en fait, quand on réfléchit au nôtre, il y a des mois à 31, d'autres à 30. Bon, on a le fameux mois de février, le pauvre qui passe des fois de 28 à 29. Le pauvre, il est un peu mis de côté. Et puis, il y a des mois, en fait, bon, tout le monde connaît l'alternance. Et puis, en fait, il y a le mois de juillet et le mois d'août qui en ont deux fois 31. Alors, comment ça se fait qu'on n'a pas fait un truc simple dès le départ, en fait?
Ah là là, là, je vais être obligée de tout déballer mes batteries. Eh bien, ce qu'il faut se dire, c'est que le calendrier qu'on utilise actuellement donc, a commencé à être un calendrier romain qu'on appelle même le calendrier de Romulus, qui date de la fondation de Rome.
De Rome, d'accord. Bon.
Or, ce calendrier-là était très bizarre parce qu'en fait, il n'y avait que 10 mois. Tiens, un système décimal, c'était beau, pourquoi pas. Et il comportait 304 jours avec des mois courts de 30 jours et des mois longs de 31.
Donc eux, ils se référençaient au soleil ou pas du tout?
On ne sait pas, mais a priori, avec 304 jours dans une année, ils se référençaient à rien, donc on mettrait dans la catégorie des calendriers chronologiques.
D'accord.
Alors ils fonctionnent un certain temps comme ça, et puis ils regardent ce que font leurs grands ennemis de toujours, c'est-à-dire ils regardent ce que font les Grecs, qui eux ont adopté un calendrier lunaire, et fonctionnent avec une année de 354 jours, où le début du mois est la nouvelle lune, la néoménie, la nouvelle lune, et donc où ils ont un système, je dirais, qui est dicté par le ciel, qui est dicté par les astres. Et donc les Romains trouvent ça très astucieux et ils vont un petit peu copier donc le calendrier grec et faire donc l'ancêtre de notre calendrier à nous, donc qui sera un calendrier donc dans lequel il y aura tantôt 30 31 jours et dans lequel je dirais on aura 12 mois.
Donc en fait notre calendrier il vient des Romains puis largement inspiré des Grecs.
Et donc, quand ils ont voulu faire un calendrier qui a 12 mois, on se rend bien compte que la différence qu'il fallait qu'ils ajoutent entre 304 jours, l'ancien système, et 354 jours, c'est-à-dire 50 jours, ne suffisait pas pour faire 2 mois. Donc, en fait, ils ont retiré un jour à chacun des mois courts, ce qui fait qu'on va avoir, à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ, un calendrier qui est très bizarre, qui a 12 mois. Les mois ont tantôt 29, soit tantôt 31 jours. Et c'est quelque chose qui plaît beaucoup parce qu'en fait, on dit que seuls les nombres impairs plaisent aux dieux. Donc en fait, tous les mois ont un nombre impair de jours et il n'y en a qu'un. Un pauvre malheureux, le mois de février, qui a 28 jours et c'est le mois qui est dédié aux dieux des morts.
Ah oui, donc ça peut se comprendre aussi.
Alors tous les problèmes de superstition, de numérologie, tout ce que vous voulez, va se retrouver caché là derrière. Et ensuite, donc quand on passera à l'année, donc à 365 jours au moment donc de Jules César, eh bien les mois vont récupérer des journées, puisqu'on va passer de 354-55 à 365, il y a 10 jours qui vont à nouveau être distribués. Et ils vont être distribués au mois court, c'est normal. Et il en restera 3 qu'on peut distribuer à qui on veut. Mmh. Et il y a février qu'à 28 jours. Si on lui donne ces 3 jours qui nous restent, dont on ne sait pas quoi faire, février passe à 31 et le tour est bouclé. Non, mais ça, ce n'est pas possible. Février ne s'en sortira jamais. On rajoutera des jours au mois de janvier, au mois de décembre et au mois d'août. Mais février gardera ses 28 jours.
Vacances,
il est condamné depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ à son nombre pair de jours.
Ah oui, d'accord, le pauvre.
Ah oui, mais c'est une histoire folle, l'histoire du calendrier.
C'est vrai que ça, c'est dingue, c'est que peu de personnes savent en fait que notre calendrier, il a plusieurs siècles. Et en fait, l'évolution. Donc là, en fait, on arrive après à l'époque du Jules César.
Oui.
Et le calendrier fait 365 jours.
Oui, tout à
fait. C'est bon, on a fini là.
Presque. Presque, parce qu'on s'est quand même bien rendu compte qu'avec 365 jours, on n'est pas exact.
Et il manque les 24-22, c'est ça?
Il manque les 24-25 pour le moment. On pense que c'est la détermination de la durée de l'année. D'ailleurs, est-ce que vous savez quoi ils ont déterminé la durée de l'année?
La durée de l'année.
Comment ils ont bien pu faire?
Par rapport à deux étoiles, peut-être?
Ah non.
Non.
Non. Non, plus simple.
Plus simple, je ne sais pas.
Mais ils ont tout simplement, il y a deux systèmes, ils ont utilisé le soleil, soit les levées extrêmes suivant l'année, en prenant deux solstices d'été consécutifs, ou tout simplement donc en prenant un gnomon, donc un bâton vertical, etc. Celui qui a servi, bien entendu, avec Sosigène, c'est l'obélisque d'Alexandrie. A servi pour les calculs. En regardant la longueur de l'ombre, ils arrivaient à savoir quand est-ce qu'ils étaient au solstice d'été, au solstice d'hiver, aux équinoxes, etc. Ils ont déterminé l'intervalle entre deux équinoxes et à ce moment-là, Sosigène, en 50 avant Jésus-Christ, a déterminé 365,25 jours, donc un quart. Donc pour faire un vrai beau calendrier qui allait marcher super, il fallait ajouter donc un jour tous les 4 ans.
C'est ce qu'on a actuellement.
Oui, mais on ne l'a pas mis là où vous pensez.
Ah.
Le jour en plus. Parce qu'il ne fallait pas toucher la fin du mois de février, qui était une période, dédiée vraiment au dieu Féou Brouhaha, où il y avait les pleureuses qui étaient dans les rues. C'était une semaine, on ne pouvait pas y toucher. Alors on l'a glissé entre le 23 et le 24 février.
D'accord.
Et on a doublé le 6e jour avant les calendes de mars. Les calendes, c'est aussi le début du mois chez les Romains. Mmh. Et donc, le fait de doubler le 6e jour avant les calendes de mars est devenu le bisextus calendas martias, c'est-à-dire le jour bisextile, que depuis les années 1500 à peu près, on place maintenant à la fin du mois de février.
D'accord.
Mais si vous prenez encore des anciens psautiers, des anciens calendriers, des anciens almanachs, parce qu'à ce moment-là, c'était des almanachs, ils disent bien que le jour bisextile, ils le mettent entre le 23 et le 24 février.
Donc, il y a depuis le 15e siècle, en fait, que le mois de février a récupéré
enfin
un jour.
Ce 29e jour, tout à fait.
29e jour.
Tout à fait, tout
d'accord.
À fait. Alors maintenant, on pourrait penser qu'on est tranquille.
Donc là, c'est fini. Bon,
voilà.
C'est une histoire d'un jour qu'on met à un endroit ou à un autre.
Oui, mais vous n'avez pas pensé à tout. Vous n'avez pas pensé à la date de Pâques.
La date de Pâques.
Et oui, parce que la date de Pâques a son mot à dire dans l'histoire du calendrier. Il y a le concile de Nicée qui s'est réuni donc en 325 après Jésus-Christ. Mm-hmm. Nicée, c'est une petite ville d'Asie mineure sur les côtes de la Turquie. Et il y a eu donc un grand concile donc à Nicée, et où ils ont en particulier donc discuté de à quelle date il fallait célébrer Pâques. Alors il y en a qui disaient qu'il fallait le célébrer le 14e jour de la lune, c'est-à-dire au moment de la pleine lune.
Mm-hmm.
C'est ce qu'on appelle les cartodécimants, parce que c'était le 14e jour de la lune que se faisait la pleine lune. Et il y a les autres qui disaient attention, il faut que ce soit proche de la pleine lune, mais il faut que ce soit un dimanche. Alors, ils ont beaucoup discuté et ils ont ensuite, décidé la règle de Pâques qui s'applique encore aujourd'hui, c'est-à-dire que Pâques sera célébré le premier dimanche, attention, vous allez répéter, le premier dimanche qui suit la première pleine lune qui a lieu soit le 21 mars, soit immédiatement après. Alors, on y va, on répète.
C'est-à-dire que
Pâques sera célébré le premier dimanche qui suit la première pleine lune,
soit
le 21 mars, soit juste après.
D'accord. C'est-à-dire, en fait, que si le 20 mars, j'ai une pleine lune...
Elle ne marche pas.
Elle ne marche pas. Si le 21, j'ai une pleine lune...
Elle marche,
ce sera le dimanche d'après.
Le dimanche d'après, vous avez tout compris.
C'est vrai que les gens, en fait, regardent toujours leur calendrier des années précédentes, mais ne se posent jamais la question le mois d'après. Qui c'est qui calcule, justement, Pâques en France?
Alors, Pâques en France, eh bien, d'une part, ça a été le grand travail de ce qu'on appelle encore les computistes. Les computistes, donc, ce sont des personnes qui, avec des formules mathématiques, parce qu'on a 1000 calendriers en équation, qui, avec donc des formules mathématiques, arrivent à connaître la date de la pleine lune de mars, après le 21 mars, savoir quel jour de la semaine c'est et en déduire la date du dimanche.
Du dimanche qui suit.
Qui suit. Et par exemple, quand vous consultez l'annuaire du Bureau des longitudes dans les années 1960-1970, systématiquement, donc tous les 2 ans ou tous les 4 ans, ils donnaient donc un article spécial sur le calendrier et vous pouvez y trouver la date de Pâques jusqu'en l'an 5000 et quelques.
Oui.
Bon, alors, on est tranquille pour le moment, on peut la trouver pour les années qui suivent, mais autrement, c'est un petit travail, je dirais, d'arithmétique.
D'accord.
Hein, pour arriver à déterminer la date de Pâques qui a 35 dates possibles. Parce que vous l'avez dit, la première possibilité, c'est que ce soit une pleine lune le 21 mars,
donc,
et que ce soit un samedi.
Entre guillemets.
Voilà. Et si c'est un samedi, Pâques le lendemain.
D'accord.
Première date possible, le 22 D'accord. mars. Imaginons que, cette fois-ci, la pleine lune soit le 20 mars. Il faut attendre la pleine lune suivante. Donc, on va ajouter 29 jours.
Ouais.
Donc, 20 mars plus 29 jours, ça fait le 49 mars, donc le 18 avril.
Oui, parce que le 49 mars, ça ne va pas nous aider.
49 mars, ça va pas. Il y a 31 jours en mars,
donc ça fait
le 18
avril.
Si c'est un dimanche, ça ne va pas. C'est le dimanche qui suit. Donc, ce sera le 25 avril. Donc, Pâques a 35 dates possibles entre le 22 mars et le 25 avril.
Eh bien, dis donc.
Voilà. Et par exemple, l'année prochaine, ça aura lieu relativement tôt. Je me suis amusée à calculer là tout à l'heure parce que je n'avais pas de calendrier de l'an 2002, donc je l'ai calculé.
Vous l'avez calculé, vous avez...
Voilà, je vous expliquerai tout à l'heure comment on
fera. Dans la conférence.
Oui, hors la conférence. Eh bien, ça devrait être le dimanche 31 mars.
On pouvait noter, là, déjà, dimanche 31 mars.
31 mars, et puis si vous voulez, on peut calculer pour 2003. Voilà, 2004. Attention, jour bisextile pour 2004, mais autrement, il n'y a pas de problème. Et c'est mathématique. La règle qui donne la date de Pâques a été codifié mathématiquement et donc c'est un problème d'arithmétique.
Mais vous avez dit que le Concile de Nicée avait fait un changement dans le calendrier, mais ils ont juste pondu la date de Pâques.
Oui.
Et pourquoi vous dites que ça a changé notre calendrier? Parce que là, ils étaient rendus bien. On rajoutait un jour tous les 4 ans, c'est comme on fait là.
Et oui, mais quand on a voulu, donc il y a eu, donc après, je dirais, il y a eu le déclin de l'Empire romain. Il y a eu toute la période des invasions, le Moyen-Âge, etc. Et je dirais, on commence à se reposer des questions d'astronomie fondamentales que, je dirais, au XVIe siècle.
D'accord.
À la période de la Renaissance, on commence à se dire, tiens, l'équinoxe de printemps, quand est-ce? C'était le 21 mars, au moment où on a fait la réforme de Jules César. On veut vérifier. Alors, on refait exactement la même manip, on trouve que l'équinoxe de printemps a lieu le 11 mars.
Ah.
Alors là, c'est la tuile pour la date de Pâques.
Oui, parce que là, ça ne va plus du tout.
Parce
là.
Que ça ne va plus du tout. La date du 21 mars, qu'on pensait à jamais être la date de l'équinoxe, ne colle plus. Et finalement, Pâques, qui devrait être une fête printanière, devient une fête estivale. C'est plus les orges précoces en épi qu'on offre, c'est les orges tardifs.
Ah,
donc
oui.
C'est suffisamment grave, c'est grave,
d'accord.
Pour décider qu'un pape, Grégoire XIII, décide d'une réforme du calendrier. Alors il s'entoure de tous les mathématiciens et astronomes de l'époque et demande qu'est-ce qui s'est passé.
Mm-hmm.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'on compte avec une année de calendrier 365,25,
oui.
qui est trop longue par rapport à la véritable valeur de l'année, qui est 24,22.
Donc en fait, ils sont embêtés par les 0,0, etc.
Voilà, on perd 3 jours en 400 ans.
Ah oui, c'est pas négligeable.
C'est pas négligeable. Ce qui fait que l'équinoxe a donc dérivé de 10 jours pendant qu'ils ne s'en sont pas occupés.
Comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait alors?
Eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en 1582, il y a 10 jours qui ont été supprimés du calendrier. Alors ça fait partie des décisions donc de la réforme grégorienne. La réforme grégorienne n'a quasiment rien changé au calendrier, rien de visible, mais il y a eu des grands changements, je dirais, dans le fond, dans le calcul, dans le principe.
D'accord.
Alors la première manifestation, ça a été donc de supprimer 10 jours au calendrier pour que l'équinoxe qui était le 11 redevienne le 21, pour qu'on puisse appliquer la règle du Concile de Nicée.
Ça veut dire qu'un jour, les gens se sont réveillés un jour, et puis le lendemain, c'est 10 jours plus tard.
Alors, le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 a été le vendredi 15 octobre 1582.
D'accord.
On n'a pas sauté les jours de la semaine, mais on a enlevé 10 jours. Il y a 10 jours qui n'ont pas existé.
Donc, si vous trouvez un objet qui datait du 11 octobre 1582, c'est que c'est un faux.
Et tout à fait. Il n'y a, rien eu pendant cette période-là. D'accord. Donc ça, ça a été, je dirais, la première réforme qui a été, je dirais, on a tranché carrément dans le problème. La deuxième règle a été donc de modifier le compte des années bissextiles. Il n'y a pas systématiquement une année bissextile tous les 4 ans. Oui. Il faut faire attention aux années qu'on appelle des années séculaires et qui se terminent par 2-0.
Les siècles, en fait.
Les siècles. Alors, l'an 2000 a été bissextile parce que le nombre de siècles 20 est divisible par 4.
D'accord.
Par contre, 1900, dont le nombre de siècles 19 n'est pas divisible par 4, n'a pas été bissextile. Pas plus que 1800, pas plus que 1700. Par contre, 1600 a été bissextile. 2004 le sera. Mais bon, je ne serai plus là pour vous en parler.
D'accord. Donc, par défaut, en fait, dès qu'on arrive à un siècle, c'est pas bissextile, sauf si on peut diviser par 4.
Voilà, si le nombre de siècles est divisible par 4. Alors, c'est pour ça, quand vous achetez une montre, on vous disait, enfin, surtout dans les années 1990, votre montre est réglée pour les années bissextiles jusqu'en l'an 2100. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'exception en 2000, donc elle faisait son année bissextile tous les 4 ans, tout à fait. D'accord. Normalement, donc elle n'avait aucun gadget, puisqu'elle ne traversait pas l'exception.
D'accord.
Voilà.
Donc là, maintenant, on est tranquille.
Alors, on est tranquille, presque. Dans 10 000 ans, il y aura 3 jours d'écart, mais on va laisser ça aux générations futures, un problème.
En gros, tous les 3 000 ans, on perd un jour, parce qu'en même avec ce système-là, il nous manque encore des virgules, des petits chiffres.
Hein. Mais bon, je dirais que ce qu'il y a eu encore comme dernière réforme du calendrier, eh bien, c'est qu'on a modifié, donc dans les formules qui permettent de calculer la date de Pâques, on a fait des petites modifications qui permettent d'avoir une correspondance, donc je dirais plus homogène entre la durée de l'année et puis la durée de l'année du calendrier. Donc d'accord. On a rattrapé le coup. Mais là, c'est pour vraiment les spécialistes.
Les puristes, entre guillemets.
C'est pour les puristes, tout à fait.
Autrement, on va peut-être conclure sur cette partie.
Oui.
Les gens se disent, c'est bon, on commence le 1er janvier, on finit le 31 décembre.
Oui.
Si les gens ont fait un peu de mathématiques, parce que moi, je me suis un peu penché sur le problème avant de vous interviewer. Le mois de septembre, le mois d'octobre et le mois de novembre, ça nous rappelle quand même assez facilement le chiffre 7, le chiffre 8 et le chiffre 9, alors que le mois de septembre, c'est bien le 9e.
On est bien d'accord. Donc, et on écrit les abréviations sans même plus réfléchir du tout. Alors, c'est tout simplement de l'histoire ancienne, celle qu'on
a dit. Là, il faut remonter encore en arrière.
Alors, on va repartir quand le calendrier romain, au départ, avait 10 mois. Mm-hmm. Et ensuite, ils en ont rajouté deux, le mois de janvier et de février, oui. Qui étaient les 11e et 12e de l'année.
D'accord.
Et quand s'est mis en place le calendrier julien, celui de Jules César, ils ont décidé de commencer l'année non plus au 1er mars, comme ça se faisait auparavant, mais au 1er janvier. Donc, tous les mois ont été poussés de 2 crans. Et donc, le mois de septembre est devenu le 9e, etc., etc. Et non plus changer le nom des mois.
Alors, avant de terminer, je
résume. Oui, il y a une petite chose à dire pour finir.
Oui.
Quand même, le calendrier, il est ce qu'il est grâce à quand même 2 personnages romains qui ont de l'importance. Mm-hmm. Bien entendu, Jules César qui a donné son nom au mois de juillet.
Oui.
Et bien entendu, Auguste qui a rectifié le compte des années bissextiles parce qu'à un moment donné, la règle a été mal appliquée et à qui a donné son nom au mois d'août.
D'accord.
Donc, en fait, au début, on a des divinités. On a ensuite, on ne va pas dire 2 empereurs parce qu'Auguste était consul. Mm-hmm. Hein, donc, 2 grandes personnalités du monde romain. Et puis après, des numéros.
Non, justement, je ne résiste pas à vous poser la dernière question. Je crois qu'il y a une histoire de jalousie entre les partisans de Jules César et d'Auguste et qu'il y a encore il y a une histoire de jours, je crois qu'on a rajouté, puisqu'au départ, le mois de juillet est consacré à Jules César à 31 jours, à l'époque, et Auguste en avait que 30.
Oui,
c'est
alors.
Le mois quand il a été allé à Auguste.
Justement, il a fallu peut-être recaler un mois d'été qui avait le même nombre de jours. Mais remarquez, le problème, c'est qu'on n'est pas sûr du tout de la date de naissance d'Auguste. Et mm-hmm. Vous imaginez si jamais il était né au mois de février?
Ah oui, d'accord.
Oh là là. Alors là, ça aurait été la déchéance complète, c'était pas possible.
Oui, d'accord, j'imagine.
Voilà, mais
on revient, on retourne en notre mois de février, le pauvre. Qui est le seul mois qui a très peu de jours.
Voilà.
Et on comprend, tant mieux, la rigueur, c'est mieux d'avoir un jour de plus en été pour les vacances.
Mais je vais vous dire qu'il y a quelque chose de génial là, et puis on conclura là-dessus quand même. Hein. Je ne sais pas si ça a été fait exprès. Mais regardez, la lunaison dure 29,5 jours.
Mm-hmm.
Donc 2 mois lunaires, ça dure 59 jours.
Oui.
D'accord. Et si vous ajoutez 31 jours de janvier et 28 jours de février, vous avez 59 jours pour les deux mois.
Ah, oui, c'est
ce qui veut dire que l'âge de la Lune au 1er janvier, ce qu'on appelle encore les Pâques, c'est l'âge de la Lune au 1er mars. Et pour le calcul de la date de Pâques, c'est super, ça simplifie les calculs.
Oui, une dernière chose pour les gens qui achètent, comme la coutume le veut, le calendrier au postier.
Oui.
Il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on pourrait parler. Vous allez en parler déjà beaucoup plus longtemps que ce qu'on va passer à la radio. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses comme le nombre d'or, les pâtes, qui apparaissent sur le calendrier des postes.
Oui.
Et en fait, qui ont tous une signification et tous un intérêt. Donc les pâtes, vous l'avez dit, c'est pour la fête.
C'est l'âge de la Lune au 0 janvier.
Merci beaucoup, Françoise. À la prochaine fois.
Oui, merci.